France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Help.
Help qui?
Avant tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Toc Toc.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Une exposition temporaire à venir au musée de Bastia. Nous aurons le plaisir dans quelques minutes de recevoir par téléphone l'un des commissaires d'exposition, Antoine-Marie Gradziani, l'historien. Et puis avec nous, physiquement, le directeur du musée de Bastia, Sylvain Grégory, pour nous parler de ce projet d'exposition temporaire Brigandage et banditisme Corse-Italie 1600-1930. Bonsoir Sylvain Grégory.
Bonsoir Marie.
Merci d'être avec nous. On avait eu la chance de visiter l'exposition, et ce grâce à Jean-Charles Marcy, les Napoléon III et la Corse. Et là, nous faisons un bond avec ce projet qui verra le jour normalement début juin sur le banditisme en Corse et en Italie. Et l'intérêt pour que vous soyez ici ce soir, c'est qu'il y a un appel à projet. Je trouve ça absolument génial, puisqu'il y a la salle L'Arsenal, qui normalement est une salle d'exposition photo, et vous faites un appel à projet à tous les photographes professionnels pour une exposition en corrélation avec la future exposition temporaire.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est de décliner tous les ans, à travers le regard de photographes contemporains, des thématiques de notre exposition temporaire, qui est un peu plus historique et patrimoniale au musée.
Mais alors, on se dit, comment réaliser une exposition photographique autour d'un thème historique tel que le banditisme ? Qu'est-ce que vous attendez de ces projets ?
Alors nous, on attend vraiment que certaines thématiques un petit peu transversales de l'exposition patrimoniale soient traduites par, justement, le regard d'artistes photographes, et surtout sur la période contemporaine.
Oui, savoir s'il y a des bandits maintenant, là, aujourd'hui.
Oui, on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a pas, on n'est pas sûr. Comme on n'est pas sûr.
Ah, ça peut être un volet social aussi, avec une espèce de Robin des Bois des temps modernes.
Voilà, Jean-Charles Marcy, bonsoir.
Bonsoir, pardon, excusez-moi. Oui.
Non, je vous en prie. Vous aviez donc visité l'exposition Napoléon III et la Corse.
Conseiller impérial,
ouais, c'était le... Vous étiez revenu complètement enthousiaste.
Comme à chaque fois, honnêtement.
Comme à chaque fois. Oui. L'intérêt de ces expositions temporaires pour le public, c'est d'abord de voir des pièces peut-être qu'on n'a jamais vues, de leur donner du sens.
C'est une mise en scène.
C'est une prise par la main. Hein.
Je l'avais signalé lors de notre rencontre, hein, Sylvain, sur la mise en scène, je ne sais pas si on dit comme ça, d'une exposition. Je pense que c'est d'un niveau vraiment international même. Les trois dernières auxquelles j'ai assisté, c'était de ce niveau-là. Et puis surtout, ça a permis aux Kidam, aux citoyens, notamment la dernière exposition, de mon point de vue, c'est de ressentir et de bien comprendre le basculement de la société, on va dire, d'une ère italienne à une ère française. C'est ce que j'ai retenu en particulier de cette dernière exposition. Donc j'imagine que sur les bandits, on va être surpris là aussi. On va sortir un petit peu des idées reçues et on va peut-être s'apercevoir que finalement on a besoin des bandits.
N'importe quoi. Ce qui me fascine dans ce type de projet, Sylvain, c'est-à-dire que voilà, on pense à un sujet, on travaille dessus avec d'autres personnes, en l'occurrence Antoine-Marie Gradziani qui sera avec nous par téléphone. D'accord, il y a tout le côté historique, mais il faut sortir des pièces. Il faut que ça ait du sens, il faut raconter une histoire.
C'est là où ils sont forts,
je trouve. Et c'est là où nous sommes très impressionnés. Comment vous travaillez ?
Alors, on travaille la plupart du temps en binôme avec Audrey Giuliani, qui n'a pas pu être là ce soir.
Qu'on l'en salue.
Alors, en effet, notre but d'abord, c'est de déterminer un discours. Qu'est-ce qu'on va dire à une expo ? Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens ? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent lorsqu'ils ont terminé leur visite ? À partir de là, donc, on élabore tout un discours que l'on spatialise, donc que l'on met en espace, que l'on scénographie, à travers des œuvres qui sont porteuses de sens. Donc, on traduit un peu les idées que l'on veut faire passer à travers des objets.
Ouais, c'est pour
mais,
ça que...
mais comment ça se passe ? Est-ce qu'on se dit, tiens, on a plein de choses là sur le banditisme, ce serait bien de monter une expo, ou pas du tout ? Le sujet vient et on se dit, voilà, il va falloir trouver, ramer, on n'a pas grand-chose.
J'aime que souvent le sujet intéresse à la fois les gens d'ici et ceux qui viennent découvrir la Corse. Il y a toujours un lien et un intérêt pour tout le monde,
oui,
dans ces expos.
Nous, le but, voilà, c'est qu'on raisonne à la fois pour attirer le visiteur corse et le visiteur touristique. Et là, bon, c'est un bon exemple, Banditi.
Ah, c'est malin, Banditi, là. C'est la bon raison, Jean-Charles.
Oui, non, mais même avec les expos précédentes, c'était destiné à tout le monde, voilà.
Oui, tout, voilà.
Là, ça va beaucoup, beaucoup leur plaire.
Voilà, l'idée, c'est de surprendre le touriste parce qu'il va arriver avec des idées préconçues, donc sur le bandit d'honneur, etc. Et c'est aussi surprendre le Corse dans le même sens, risque de revenir sur le stéréotype, qu'il soit positif ou négatif, du bandit d'honneur, en démontrant que, d'ailleurs, petit 1, c'est une violence sociale, le bandit d'honneur n'existe pas, c'est une construction, on va bien le voir dans la troisième partie de l'expo, et surtout, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à la Corse, puisqu'on le retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Alors là, pour des raisons pratiques, on a dû réduire
à l'Italie.
Voilà, à l'Italie, hein, mais au départ, on était parti sur l'idée de faire tout le bassin méditerranéen, donc y compris les bandits albanais, les bandits grecs, les bandits espagnols, voire même nord-africains. Donc c'était
les
un peu trop.
Et c'était dans les casinos.
C'était un peu trop ambitieux. Donc du coup, on a réduit la voilure. Et l'intérêt pour nous aussi, c'est toujours le même, c'est de replacer aussi l'histoire de la Corse, de sortir de ce regard ethnocentré qu'on a un peu trop tendance à avoir, pour montrer comment cette histoire elle se construit dans le bassin méditerranéen et surtout avec l'ère italienne.
Lorsque l'on entend le terme bandit, on imagine que ce bandit, il naît parce qu'il est pauvre, qu'il y a des seigneurs, qu'il y a une vie urbaine très riche autour de lui, et qu'il a envie, un peu comme Robin des Bois, eh bien, de détrousser les plus...
Ça, c'est le bandit, voilà.
Voilà.
Sympa,
mais on se dit en Corse, est-ce que c'est la même histoire ?
Alors, Robin des Bois, évidemment, c'est un peu un mythe, hein, c'est un héros mythifié.
Comme le bandit d'honneur, d'ailleurs.
Comme le bandit d'honneur. Alors, ce qu'on a, évidemment, il faut bien déjà distinguer le brigand et le bandit. Le brigand, bon, c'est de la délinquance, pure et dure. Le bandit, ça peut être de la délinquance, mais ça peut être aussi des gens qui ne remettent pas forcément en cause l'ordre établi. C'est pas des Robin des Bois, ils redistribuent pas les richesses aux pauvres en les prenant riches, mais c'est des gens qui remettent tout au moins en cause la législation de l'époque.
Ce sont des rebelles.
Ce sont des rebelles, oui.
On peut aussi être bandit, pardonnez-moi, suite à un affront. Bon, c'est peut-être un peu plus rare,
voilà,
mais
tout à fait. Certains... Mais là, on est aussi dans la régulation de conflits qui viennent s'opposer à la justice. À la justice étatique. Voilà, mais on n'a pas, en Corse, on n'a pas d'exemple de Robin des Bois. Ça n'existe pas. Par contre, on a beaucoup de gens qui sont partis d'une vendette classique, et sont devenus, et la plupart du temps, c'est le cheminement de ces gens-là, y compris jusqu'au 19e siècle.
Parce qu'ils prennent le maquis.
Prennent le maquis et ils tombent dans la délinquance pour survivre. Et
oui.
Parce que là aussi, il y a le mythe de la solidarité villageoise et familiale, qui en fait s'avère être beaucoup moins une réalité que des actions qui sont motivées par la peur que suscite le bandit.
On va écouter un lama.
Nous, souvent, on prend au pauvre pour donner aux riches ici. Hein. C'est un peu l'inverse. Petite parenthèse, voilà, c'est fait.
On va écouter un lama tout bien célèbre. Celui-là est interprété par Tino Rossi.
Ormai a mes amas, chiasa bandito. Ma si bandito so che per l'onore, per vive vuol dire che d'arrivi tu, ancora in larba io rispetto lo viore. Un rito e la cagione di lì, un corso e coraggioso, ma ville mai. Un rito e la cagion di rime guai. Un corso e coraggioso, ma ville vita di un bandite mischinella si stanca un l'arma nude fuor di reto vuol lo sopra una fronda una cella mi porta di un umè che lo sospetto come l'antichi corsi o mi ricore pronti se ma tumba e pronti amore come l'antichi corsi o mi ricore pronti se ma tumba e pronti amore solo una stiritata mi confonde in tutta sta verdura generosa quando io chiamo che le come risponde senza darmi la voce la mi sposa mi voce quando mi trovo mi pare di essere più morto che vivo mi voce quando mi trovo mi pare di essere più morto che vivo. O coro si cadanata da rumore, terrori eroi addolorati sola. Le tue virtù le tengo tante care, chi dirà sorte ciò che mi consola. Ma di sangue per rompere tu catene, daria di rucore le mie veni. Per rompere i tuoi catene, daria di rucore le mie veni.
Tino Rossi avec Où la main tout dit au bandit, doit 17h20 sur RCFM et dans Toc Toc. L'historien Antoine-Marie Graziani est avec nous. Bonsoir et merci d'être là. Antoine-Marie, vous êtes le co-commissaire d'exposition de Bandit, exposition que nous découvrirons début juin au musée de Bastia. Vous avez signé un ouvrage qui est paru, je crois, il y a 2 ans, La violence dans les campagnes corses, du 16e au 18e siècle. C'est peut-être pour cette raison aussi que Sylvain Grégory a pensé à vous. C'est un mythe, cette histoire du bandit d'honneur ?
Le bandit d'honneur, ça n'existe pas. non, enfin, je veux dire, si vous voulez, il y a deux niveaux de banditisme. Il y a un niveau de bandit-bandit et il y a un bandit à qui on donne une espèce d'onction particulière parce que il aurait agi pour de nobles motifs. Le problème, c'est que on peut passer du second au premier, si vous voulez. On peut passer du bandit d'honneur au bandit tout court assez rapidement. Il y a un cas que j'ai en tête, c'est celui du bandit Massogne, le bandit, si vous voulez, qui a été décrit par Marcage il y a désormais fort longtemps. Marcade, j'ai expliqué, le bandit maçon, le personnage qu'il décrit passe effectivement d'une espèce de position, si vous voulez, de bandit d'honneur, pour toute une série de raisons qui l'ont amené à ancien gendarme à devenir bandit, à une position qui devient celle d'un bandit, c'est-à-dire quelqu'un qui est craint et pas du tout aimé, si vous voulez, pour reprendre la phraséologie habituelle.
Donc pour caricaturer, il y aurait une violence normale, c'est-à-dire terrible, et une violence quasi légitime chez certains ?
Non, si vous voulez, il y a dans la pensée des Corses du ancien, si vous voulez, il y a une idée, si vous voulez, qu'il y a une partie de violence qui est une partie qui est acceptable, en tout cas qui est tolérée parce que reconnue comme étant acceptable. Mm. Et puis il y a effectivement une violence qui n'a pas cette représentation là. Il y a véritablement dans l'esprit des gens, oui bien sûr, il y a mais c'est pas particulier aux Corses, hein, c'est assez général. L'idée selon laquelle le toute violence n'est pas admise, c'est une idée, je serais tenté de dire, très récente,
voire utopique. Alors, ce bandit, il est originaire d'un milieu rural en général, d'un milieu pauvre, ou ça ne veut rien dire ?
D'un milieu rural, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, si vous voulez, c'est tout le problème en fait des autorités successives, c'est-à-dire l'autorité génoise et puis l'autorité française. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on met beaucoup de policiers, etc., dans des zones qui sont des zones urbaines où il se passe quasiment rien, où il y a très peu de délits. L'essentiel des délits se passe dans le domaine rural, mais là, il y a très peu de policiers, si vous voulez. En fait, on inverse les facteurs. Et c'est pas une particularité, là non plus, une particularité corse. J'étais dans un colloque à Milan il y a plusieurs années, et ce qu'on me présentait pour Bergame me convenait tout à fait pour la Corse. Oui, pour Alessandri, dans un autre colloque à Venise, c'est exactement la même chose.
Mais pourquoi ils sont les mêmes dans tout le bassin méditerranéen, et pourtant, celui qui a remporté tous les succès et qui est devenu un mythe, c'est le bandit corse.
Les Corses ont été vendus, se sont vendus. Enfin, on a eu une image qui est une image qui a été fabriquée en partie par le romantisme français, par les grands auteurs romantiques français, par Balzac, par Flaubert.
Par Mérimée.
Beaucoup de bandits recevaient la presse également.
Se mettaient en scène.
Bien sûr.
Mais ils se donnaient des titres pompeux aussi. Bien sûr.
Ils se sont fait leur promotion. Mais en dehors de la promotion qu'ils se sont faites eux-mêmes, il y a une promotion, si vous voulez, qui a été faite par... regardez le Mérimée lorsque Colomba sort. Pietri envoie un texte à Mérimée, une lettre à Mérimée, en lui disant ce que vous avez fait est magnifique, etc. C'est le plus beau texte qu'on ait présenté, etc. Alors que ce que décrit Mérimée, c'est quelque chose qui est pour une très grande partie du domaine, si vous voulez,
du
fantasme et de l'incompréhension réelle.
Eh oui.
C'est-à-dire ce qu'il décrit, en fait, dans la réalité, il ne le comprend pas. Ou tout au moins, il veut lui donner un sens qui n'est pas le sens, si vous voulez, des constructions, notamment autour de la Vendetta. Là, c'est véritablement, on est dans une reconstruction absolument totale.
Antoine-Marie Graziani, ce bandit, donc, partout dans le bassin méditerranéen et pas seulement en Corse, il est plutôt issu du milieu rural. Est-ce qu'il évolue seul ou parfois
non,
en bande ?
Je crois pas.
Alors, il y a deux niveaux. Il y a de toute façon, pour ce qui est de la Corse, l'homme seul est mort. C'est même pas la peine de commencer quelque chose avec un homme seul. Ça n'existe pas. L'homme seul est mort. Ça ne fonctionne que par les systèmes familiaux. Vous êtes inclus à l'intérieur d'un système familial, et pour une partie, les raisons pour lesquelles vous pouvez être amené à commettre un certain nombre de délits, c'est lié aussi à votre système familial. Le système familial vous oblige à un certain nombre de choses. Si vous voulez, c'est à la fois, le système familial, c'est une force extraordinaire, et puis en même temps, c'est quelque chose qui va vous coûter. Voilà, il faut se rendre compte. Il y a les avantages et les inconvénients, si vous voulez, du système familial. Dans le système familial, vous avez effectivement les avantages. Les avantages, c'est que vous avez un groupe de gens autour de vous, etc.
La logistique.
Qui vont vous aider à, quelque part, à vous en sortir. Soit qu'elle vous amène du monde, si vous avez un affrontement avec un parti adverse, soit qu'on fasse pression sur un tiers, parce que il faut se rendre compte que dans ces systèmes-là, notamment un système de vendette, etc., en fait, on fonctionne pas à deux, mais on fonctionne à trois. On fonctionne, il y a les deux parties qui s'opposent, et puis il y a l'arbitre. Celui qui se positionne et qui va, à un moment donné, devoir faire une médiation pour stopper cette confrontation. Celui-là, si vous voulez, qui va s'installer sur le côté, c'est très souvent un notable, c'est très souvent un personnage, si vous voulez, un petit peu important, soit religieux, soit donc un notable, soit un officier, dans le cas des Génois, d'un officier, parce que tout simplement, la seule solution qu'ont les Génois pour régler le problème du banditisme en Corse, la seule solution qu'ils aient envisagée en réel, je ne parle pas de ce qu'ils ont pu fabriquer comme institution, etc., mais là, c'est le traité de paix.
Alors, le traité de paix. On comprend qu'il y a plusieurs types de bandits, qu'ils évoluent à travers le temps. Il y a le bandit vengeur, on l'a dit, donc un problème familial, un problème de voisinage, et puis il doit prendre le maquis et s'en sortir, et donc vivre en faisant des méfaits.
Et on sait ce que coûte une cavale.
Enfin, moi, je ne sais pas, on imagine.
Apparemment, en tant que commissaire.
qu'auparavant, c'était différent.
Non, bien sûr. Et puis, il y a, en effet, le bandit, le crime organisé.
Le brigand.
Est-ce qu'à un moment donné, ce bandit, donc le rebelle aussi, hein, celui qui se dresse contre le pouvoir en place, à quel moment le pouvoir en place utilise le bandit?
Il peut l'utiliser à plusieurs niveaux.
Dans l'histoire
dans l'histoire,
tout le temps.
On s'est beaucoup servi du bandit. C'est valable pour le pouvoir en place, d'ailleurs, comme pour la notabilité. Les notables, c'est toujours bon d'avoir un bandit, si vous voulez, dans la manche. Surtout si vous avez un adversaire, etc., etc., pour vous en servir. Vous avez quantité de gens, puis vous avez quantité d'erreurs qui ont été commises, hein, d'homonymie. Je me souviens de Perelli, celui qui fait la correspondance de Pascal Paul, qui publie la correspondance de Paul. Le docteur Perelli sera assassiné parce que c'est une erreur d'homonymie. La personne qu'on a chargé de le tuer, parce qu'il y a ça aussi. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, du banditisme d'honneur, ou etc., etc. Il y a aussi des règlements de compte, et puis il y a la possibilité pour un notable pour tout se servir de la même façon. Lorsque vous regardez dans le système de loi, etc., vous avez le principe du marché tête pour tête, qui est un système complètement fou, qu'ont inventé les Génois à un moment donné, qu'ont repris dans d'autres populations qui faisaient déjà la même chose en Crète, à Naples, etc., etc. Le principe du marché pour tête, c'est assez simple. Un bandit qui veut sortir du maquis tue un autre bandit, lui coupe la tête, et la tête du bandit, si vous voulez, elle a un prix. il doit amener la tête, voilà, et on fait l'échange entre lui. Lui peut sortir du maquis.
Et oui.
Bon, donc ça, c'est, ça a été
ça
mis en place.
Ça dépend bien du pouvoir en place, oui.
Au départ, non pas contre pour le banditisme,
bien
mais
sûr.
contre les gens engagés auprès de San Piero. Vous voyez, on est en 1555. Ensuite, ça devient un système pour le banditisme. Et tout le monde va récupérer cette chose-là, y compris Pavle.
Oui.
Pascal Pavle récupérera le même principe. Il dira, ça fait partie des statuts civils et criminels de la Corse. Donc, je récupère purement et simplement. Je touche à rien. Et je continue dans le même sens.
C'est passionnant, Antoine-Marie Graziani. Moi, je vous invite à consulter le livre d'Antoine-Marie Graziani, La violence dans les campagnes corses, du XVIe au XVIIIe siècle, qui est paru chez
Chez
Alain Piazzolla.
Ça se compte en milliers de morts, je crois, dans votre ouvrage. Hein, c'est impressionnant. Enfin,
oui.
C'est des milliers et des milliers de personnes.
Oui. C'est un ouvrage sur les questions de la violence. Donc,
on voit dans plusieurs siècles, c'est une hécatombe.
Voilà.
Et puis je rappelle que vous êtes le co-commissaire d'exposition avec Sylvain Grégory qui est avec nous pour cette exposition qui verra le jour début juin au musée de Bastia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.
Thank you.
Grégory, le directeur du musée de Bastia, est notre invité dans Toc Toc.
Ancien bandit. Hein.
Pour nous parler de la future exposition temporaire.
Escroc, pas bandit.
Du musée, c'est pas
bandit,
pareil.
Bandit d'honneur.
Brigand, bandit, escroc, c'est pas pareil. Brigandage et banditisme, Corse Italie, 1600-1930. Exposition prévue pour la fin juin, puisque depuis le début de l'émission, je dis début juin, donc c'est fin juin. Début juin, ce sera donc à l'Arsenal pour l'exposition photo, puisque un appel à projet est lancé. Et vous faites en sorte qu'il y ait toujours un lien avec l'exposition temporaire et notre époque contemporaine. Donc du coup, là, ça va résonner encore plus, puisque vous demandez à ces photographes professionnels, qu'est-ce que vous leur demandez d'ailleurs ?
On leur demande leur interprétation du phénomène du banditisme au sens large du terme, à travers le média photographique. Donc vraiment une inscription...
Donc pourquoi pas de nos jours également ?
Oui, tout à fait, de nos jours, et non seulement en Corse, mais aussi en Italie, évidemment.
Quelles sont les conditions pour cet appel à projet ?
Alors, vous faites photographe professionnel, ensuite il y a un dossier à déposer, et nous, on va juger les offres, vraiment, en fonction de leur originalité, bien sûr, et de leur cohérence avec l'exposition patrimoniale et historique.
Est-ce que ça peut être un travail collectif ?
Ça peut tout à fait être un travail d'un collectif, oui.
Voilà, donc c'est important de le signaler. Quels renseignements, quels biscuits ils vont avoir pour justement préparer leur projet par rapport à l'exposition que vous allez nous proposer fin juin ?
Alors, ils ont le synopsis de l'exposition, hein, qui est assez dense. Et,
bouquin, hein, je vous le dis, c'est un livre.
Non, c'est pas tout à fait un livre. Mais disons qu'il ouvre beaucoup de portes et il permet de voir la pluralité des conséquences de ce phénomène et aussi la multiplicité des formes qu'il a, puisqu'on part d'un phénomène social avec ses dimensions politiques, mais aussi avec ses dimensions artistiques. Parce que le mythe du bandit, il est fabriqué par les arts, que ce soit la littérature, l'opéra, la sculpture, la peinture aussi, beaucoup avec le romantisme, mais même avant, hein, au XVIIe siècle, c'est un genre en part
entière. Les chansons populaires.
Le chant populaire, évidemment, tout ce qui est patrimoine immatériel. Oui. Donc on est vraiment sur un sujet qui a beaucoup de dimensions.
Autre condition, il faut qu'il y ait une partie création, c'est-à-dire qu'il y ait des originaux spécialement conçus pour cette exposition.
Oui, tout à fait, parce que c'était un peu trop facile de présenter sur un tel thème des clichés ayant déjà été montrés. Donc, on a tenu à ce qui est vraiment un aspect créatif qui fera partie intégrante du jugement, bien évidemment.
Clôture de cet appel à projet, fin janvier, 24 janvier. Donc, si vous nous entendez, que vous êtes photographe professionnel, que vous êtes intéressé par l'idée, eh bien, dépêchez-vous. Pourquoi ce désir de faire un appel à projet ?
Alors, pour plusieurs choses. Déjà, bon, on est en période préélectorale, donc c'est pour la transparence déjà, mais ça on va le maintenir même après la période électorale, c'est vraiment un souci de transparence, c'est pas uniquement conjoncturel, ça va être structurel. Et puis aussi, ça permet d'avoir une originalité de point de vue qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait confié directement des missions, comme on l'a fait précédemment, où on a notre propre regard qui est parfois biaisé, parfois erroné, parfois peut-être il manque aussi d'originalité. Donc là, c'était vraiment pour faire émerger un volet créatif et pourquoi pas même découvrir de nouveaux talents auxquels on pourrait mettre le pied à l'étrier, hein, comme on l'a déjà fait pour d'autres au musée de Bastia.
Comment ça se passe concrètement pour les visiteurs lorsqu'ils viennent au musée de Bastia fin juin pour visiter l'exposition temporaire et l'exposition permanente? On leur propose d'aller à l'Arsenal avec un billet en plus ou ça fait partie du tour?
Non, ça fait partie du tour et on n'a pas augmenté les prix. Donc on est, je crois, le musée le moins cher de Corse. Donc on essaye vraiment d'avoir une politique qui attire le public. Hein. On a de nombreux tarifications de gratuité ou de demi-tarifs. On a vraiment une volonté de faire que le musée soit accessible à tous. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir aussi des sujets assez variés pour que tout le monde puisse s'y reconnaître.
Alors vous n'avez pas besoin de Jean-Charles et moi. Encore moins de la radio,
mais
est-ce
ça dépend.
Mais est-ce qu'on peut lancer un appel où ça sert à rien, je sais pas, aux particuliers qui auraient peut-être des pièces que vous ne connaissez pas.
Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors on peut le faire. On cherche surtout des tableaux et des objets qui ont appartenu à des bandits. On en a quelques-uns, mais il faut vraiment qu'on ait l'assurance scientifique qu'ils leur ont vraiment appartenu, parce que là aussi, on est dans le domaine du mythe.
Moi, j'ai une gourde, mais je suis pas sûr que.
Donc vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on ait des garanties d'assurance au mieux qu'on peut sur l'origine de l'objet, bien sûr.
Sans tout dévoiler, qu'est-ce que vous avez là qui va pouvoir nous intéresser, si on doit parler d'une pièce ou deux?
Bon, alors on en a beaucoup. Hein. Pour l'instant, on est en cours de finalisation du listing des œuvres. On est déjà à 160 œuvres, donc qui viennent évidemment de Corse, mais aussi d'Italie et de France continentale. On va par exemple avoir le stylet du bandit Santalucci. Alors Santalucci, ça vous dira peut-être rien, mais au 19e, c'est un bandit qui a défrayé la chronique hein, par sa violence, au point que Maupassant va écrire une nouvelle sur lui qui s'appelle Un bandit corse, qui est une nouvelle très très courte, mais qui résume toute la problématique du banditisme en Corse au 19e siècle, où il démontre que c'est un personnage, avant qu'il ne se venge, donc là aussi...
Un bandit vengeur
de ses parents, ouais. Voilà. Un personnage assez effacé dans la vie du village, qu'on ne voit pas, qui met beaucoup de temps à se venger, donc qui est le sujet des colibés de sa communauté. Et finalement, il va se venger du jour au lendemain, en tuant non seulement celui, l'assassin de son père, mais en plus en exécutant deux faux témoins, avec une violence assez rude, qui est très bien décrite par Maupassant, et... L'idée de Maupassant, c'est de mettre, de faire émerger à travers cette nouvelle, une des caractéristiques du bandit, c'est son caractère d'être exceptionnel, hors norme, qui se dégage de la norme et qui devient un espèce de surhomme.
Un homme extraordinaire.
Tout à fait, un homme extraordinaire.
Comment sait-on que c'est son stylet? Quelle preuve scientifique avons-nous?
Alors, on a la lame qui a été gravée.
Ah d'accord, ouais.
Voilà, avec la date, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Alors moi je pense que c'est pas que c'est le sien, oui. Mais que la gravure elle est légèrement postérieure, sans doute un gendarme qui l'a
bien
saisi,
sûr,
et voilà, et qui a voulu en faire un objet souvenir et commémoratif. Voilà.
Oui. Est-ce que vous avez pensé, parce que la dernière expo, bon c'était juste pour le côté sympa, on pouvait se faire prendre en photo dans les prisons
en tenue. Scénographie ludique.
Voilà, ça porte un nom, j'ai oublié, pas porte-tête.
Passe-tête,
pardonnez-moi. Est-ce qu'il y aurait un petit peu ce genre pour clôturer la
avec
visite?
Avec une fausse guillotine, par exemple.
Voilà, pourquoi on pas, met la tête dans le trou et après on regarde ce qui se passe, on tire à la.
Voir si...
On tire la chevillette et
ressentir
on regarde ce
que
se passe.
Spada ressentit, par exemple, avant de.
Non,
qui était très mal défendu d'ailleurs par son grand-père.
Bah, tout à fait.
Petite parenthèse.
Ça lui a coûté cher.
Pas le grand-père de Spada, le mien.
Non, le vôtre, bien sûr, voilà.
Non, là on est en cours de discussion avec un artiste contemporain. Voilà.
D'accord.
Il y aura peut-être quelque chose, je ne peux pas vous dire encore parce que
mais
c'est
faut,
pas
du tout.
Vous l'avez envisagé, voilà. Non, c'est envisagé
faut,
en tout cas.
Évidemment, songer à une scénographie ludique parce que pour tous les publics, même les grands, on aime bien.
Alors je pense que de par le thème, il y aura une scénographie qui sera assez ludique. Et ce qu'on va faire aussi cette année, c'est qu'on va développer l'offre de médiation pour les plus jeunes. Parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur ce thème-là, beaucoup de légendes et de contes qui font intervenir des bandits. Donc je pense qu'on va beaucoup travailler là-dessus, sur des offres de médiation, aussi bien pour le public scolaire que pour le jeune public, donc familial.
Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux défenseurs de Spade, il y a un très beau livre, alors je ne sais pas si on le trouve toujours, Jean-Charles, qui avait été écrit par la fille de Maître Cancellieri.
Ah, Lucia, je crois. Non, Lucie, hein, c'est ça, oui.
Qui donc avait défendu Spade aux côtés de Tito Brondini de Carafe.
Ça remonte à plus de 20 ans, ce livre,
voilà,
je crois. Voilà.
Et voilà, si vous êtes intéressé.
Ah oui, ça explique parfaitement.
Sur le banditisme, c'est, le livre est très bien et c'est très intéressant.
J'avais une question aussi. Oui, si vous permettez, parce que bon, il y avait les maquisards, les résistants,
oui.
Justement. On pense tous au livre Tous bandits d'honneur de Maurice Choury. Est-ce que, alors, on les appelait bandits parce qu'ils étaient dans le maquis, maquisards. Est-ce que ça va être un des volets, voilà, de concernant la prochaine expo? Est-ce qu'on peut le dévoiler? Je ne sais pas.
Alors oui, c'est un volet qui s'intègre dans la troisième partie de l'exposition, dans laquelle justement on va montrer. Comment le mythe du bandit dit d'honneur va s'enraciner dans l'imaginaire, corse et même continental, à travers notamment les arts, dont la littérature, l'histoire.
D'accord.
Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va insister pour expliquer justement comment on est passé d'un phénomène social, d'une violence sociale, à une figure mythique, en passant à la fois par des sentiments très mitigés, comme la peur, la terreur, mais aussi la fascination. Et même avant le XXe siècle, hein, même on voit très bien dans les tableaux de paysages des peintres hollandais et flamands. Il y a des scènes de brigandage, c'est un thème vraiment à part entière dès cette époque-là, qui va être réactivé après avec la vague romantique au XIXe siècle, où il y a des peintres qui vont se spécialiser dans les figures de bandits. Hein. Je pense à Léopold Robert, qui est un peintre suisse, qui ne va peindre avec un énorme succès que des bandits, que des scènes avec des bandits. Et on a la chance d'avoir plusieurs musées suisses qui vont nous prêter certaines de ses œuvres.
C'est intéressant.
Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que dans cette exposition, parce que c'était très intéressant là, ce que demandait Jean-Charles, que le Ribelle, ou l'image du Ribelle, ou qui donc a traversé le temps, soit aussi abordée?
Alors ça, on va plutôt le retrouver, probablement, enfin on verra, à l'Arsenal. Donc nous, on va rester sur une période beaucoup plus...
Nous donnons des pistes,
voilà, j'allais le dire.
On donne des pistes, c'est pas bien ça pour les candidatures. C'est pas
égalité. Mais non, c'est bien de donner des idées.
Bien sûr. Ouais. Et puis...
Voilà, donc nous, on va rester sur une période assez ancienne. Ouais. Et c'est pour ça qu'il nous fallait traiter de la période beaucoup plus contemporaine sur un autre espace.
Quelques bandits célèbres.
Oh, il y en a eu...
Qui vous ont
Moi j'aimais bien aussi ceux qui se donnaient, par exemple le roi du palais vert, ouais. Le tigre de Chinarca,
le roi du maquis,
Bella Gauche, parce qu'il avait
le plus célèbre, et c'est celui aussi qui a très vite compris qu'il pouvait se mettre en scène,
bien sûr,
aussi, et faire un peu une auto-représentation. Donc ça fera partie d'une sous-section de l'exposition. Hein. C'est un personnage incroyable, tellement ambigu, ouais. Et qui a sévi avec du racket, qui avait des liens avec les politiques, qui a racketté aussi les entrepreneurs du chemin de fer, qui a aussi fait au moins des tentatives de viol, si ce n'est plus.
Oui, souvent,
charmant.
Mais très souvent, le transport était sujet justement à raquettes par rapport à des bandits en plein oriental, sans donner de nom, parce qu'il y a encore des descendants. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais il y avait des bandits pour passer, pour descendre dans le Fiumo, il fallait payer. On dirait le pizzo en Sicile, hein, mais c'était un droit de passage.
Hein. Et en Italie, des bandits célèbres.
Le plus célèbre, c'est Fra Diavolo, mm-hmm. qui a donné lieu à des opéras, napolitains, qui s'est battu là aussi. Il y a un volet politique et patriotique, puisqu'il s'est battu contre les Français au début du Premier Empire. Donc
un ancien soldat?
Ah non, pas du tout.
Ah, pas du tout,
non,
d'accord.
Lui, pas du tout, mais c'était occupé par les troupes françaises, donc il y a aussi un volet de héros patriotiques.
D'accord.
Voilà. Et c'est surtout quelqu'un qui a eu, un personnage qui a eu une célébrité au 19e avec l'opéra d'Aubert, et on espère avoir le portrait d'un des chanteurs qui nous sera prêté par le National Gallery de Londres. En costume de Fra Diavolo, un tableau
Moi je connaissais pas, mais c'est terrible, Fra Diavolo, c'est terrible comme nom, hein, comme
surnom. Parce qu'il y a tout un volet aussi, et ça ce sera dans l'exposition, il y a tout un volet où on voit comment le bandit va se créer un mythe d'invincibilité par des mesures de protection et par une dévotion particulière envers Dieu, et comment même il va s'auto-représenter comme une figure christique.
C'était le cas de Spade
Spade, là on est en plein dans la pathologie mentale, hein, mais bon, ouais, c'est vraiment l'exemple poussé au maximum.
Mais il avait complètement perdu la raison.
Oui, complètement perdu la raison, mais on retrouve même en Italie des bandits qui se présentent comme étant...
Ils pensaient parler à Dieu, hein, directement. Hein.
Ben oui, forcément, puisqu'ils se prennent tous pour le Christ, bout d'un moment. C'est parce incroyable. Qu'ils disent qu'ils défendent... qu'ils défendent certaines idées comme le Christ, qu'ils ont les autorités contre eux, comme le Christ, qu'ils ne peuvent finir que trahis par un des leurs, Judas Jésus, donc on retrouve la même...
Qu'ils ont le droit de vie et de mort. Même, hein.
Voilà. Et que finalement, ils vont finir sur la croix, quelque part. Et
qu'avec eux, Lazare ne se relève plus. Hein.
Non, il n'y a pas grand monde qui se... Beaucoup de monde qui se couche, par contre.
C'est un peu la différence avec le Christ. Alors.
Donc voilà, donc il y a aussi ce volet un peu d'auto-représentation.
Très intéressant, oui.
Voilà, il y a un bandit dans le Fiumor, vers chez moi, pour ne pas le citer, un mastodonte qui, lui, n'a pu être... qui était soi-disant invincible. On est au 19e siècle, hein, quand même. Hein. On n'est pas au Moyen-Âge. Hein. Donc pour vous dire comment les mentalités étaient aussi à l'époque. Donc il ne pouvait pas être tué parce qu'il était invincible. Et la seule balle qu'il a tuée, c'est une balle qui a été fondue dans le bronze d'une cloche d'une église.
C'est incroyable.
Vous voyez aussi comment le bandit acquiert, en tant qu'homme extraordinaire, justement, acquiert presque une dimension, si ce n'est divine, du moins quasi christique.
Pas de femme bandite, ou bien de femme autour des bandits ?
Je ne sais pas.
Alors,
est-ce qu'il y en a eu ?
Alors, des femmes autour des bandits, il y en a eu, évidemment.
Oui, des femmes autour, mais des femmes bandits.
Des femmes bandits, il y en a eu, on va en présenter dans l'expo, puisqu'on en a, a quelques portraits qui vont nous venir d'Italie.
Ah.
Voilà. Ah, mais en Corse, est-ce qu'il y en a eu en Corse, des femmes bandits ?
Non.
D'accord.
À ma connaissance, non.
Moi non plus, voilà.
Voilà.
Et est-ce que ces bandits sont hommes à femmes ?
Oui.
Ben, la gauche, non,
ah, oui.
Non, mais...
pour ne parler que de lui, voilà, oui, il y a aussi une dimension très sexuée du bandit. Le bandit, c'est l'homme, le vrai, voilà, c'est le viril. Et on est aussi dans cette relation ambiguë entre répulsion et fascination. Hein, pour la population féminine, notamment, mais pas que. On est aussi dans cette dimension-là.
Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'était quand même aussi certains c'était de grosses crapules. Il faut juste quand même le dire.
Ah oui, mais des.
Moi, il y en avait un dans ma région. C'était vraiment une crapule.
Ah oui, c'était. On a du racket, on a des assassinats, on a des prises d'otages, des demandes de rançon.
Tuer des enfants. Enfin, c'était des choses horribles.
Des enfants, c'est Matteo Falcone. C'est voilà. Bon, on est vraiment. Il ne faut pas croire. Quand on regarde la presse du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle, on se dit, eh ben, c'est plus calme maintenant. Hein.
Oui.
Parce que c'est vraiment le Far West. Hein. Antoine-Marie parlait des têtes pour têtes, du marché têtes pour têtes. Eh bien, la figure du chasseur de primes, je ne veux pas dire que c'est ici qu'on l'a inventé, mais il y a des racines ici. Voilà, donc c'est vous dire un peu, c'est le Far West, quoi.
On l'a dit en tout début d'émission, on l'a redit avec Antoine-Marie Gradiani, c'est un mythe, le bandit d'honneur. Mais alors, le code, les codes, ils existent ou pas, des bandits d'honneur, ou ils n'existent pas ?
Oui, ils existent.
Je parle dans l'histoire. Hein.
Dans l'histoire, ils existent sur leur auto-représentation, surtout.
Voilà.
Et cette auto-représentation et le regard qui a été porté par des altérités, c'est-à-dire par les non-Corses qui sont venus en Corse, qui ont été piégés par cette auto-représentation et qui nous l'ont refourguée, entre guillemets, puisqu'elle s'est très enracinée dans l'imaginaire collectif insulaire. Hein. Quand on parle bandit d'honneur, ben la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure de Tino Ross, et voilà, c'est quelque chose, pour les gens des années 30, le bandit d'honneur, c'est une réalité, pour eux, ça a existé, et ça fait vraiment partie de l'identité corse. Et c'était vraiment ça aussi qu'on a voulu montrer, c'est comment cette représentation, ce stéréotype du bandit d'honneur, qu'il soit positif ou négatif, a fait partie, à un moment donné de l'histoire de l'île, fait partie donc des représentations qui caractérisaient le Corse à cette époque-là. Et même si après, dans les années 30-50, on est passé au grand banditisme et de bandit d'honneur, on est passé à le Corse gangster, qu'on a encore très fort aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a qu'à voir certaines séries qui sont tournées ici.
Mmh.
Voilà, un peu comme en Italie. Et là, on est vraiment sur une proximité culturelle que l'exposition va mettre en exergue.
On rappelle l'appel à témoins.
À témoins, c'est ça. À témoins, non, parce qu'il y a, justement, il y a eu un bandit qui a fait un carnage.
Avant de se quitter, je suis tellement dedans, là, dans l'appel à projet.
Alors, l'appel à projet,
donc
c'est jusqu'au 24 juin.
24 janvier.
Janvier, pardon. Ah ben, je suis bon, moi aussi. Donc,
ne parlons plus.
24 janvier.
À quoi il me boque ?
24 janvier, on retrouve toutes les infos sur le site du musée, le site de la ville de Bastia.
Merci beaucoup, Sylvain Grégoire, directeur du musée de Bastia, d'avoir été avec nous. Merci également à Antoine-Marie Gradiani, qui est donc co-commissaire à vos côtés de l'exposition Banditi, brigandage et banditisme Corse-Italie 1600-1930, prévu pour la fin juin au musée de Bastia. Merci Jean-Charles Marcy.
Merci à vous.
Et merci à Alicia Brunini qui réalisait cette émission.
notre planète. France Inter et la Massif vous proposent un cycle de conférences animé par Mathieu Vidard.
Prochain rendez-vous mardi 28 janvier à 20h sur le thème « Se nourrir ». Du sol à l'assiette, nos habitudes alimentaires se transforment. Agriculteurs, sociologues, agronomes et chefs cuisiniers, ils viendront nous parler production, consommation et alimentation durable.
En direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr. France Inter, une radio de Radio France.
En partenariat avec la Massif.
Massif, essentiel pour moi.
Bonjour, c'est Jean-Michel Bertrand. Je suis heureux de vous présenter mon nouveau film, Marche avec les loups. J'ai marché pendant des mois dans les pas d'un jeune loup qui cherchait un nouveau territoire. Cette quête est devenue la mienne. Quelle place voulons-nous laisser à la nature sauvage ?
Marche avec les loups, le 15 janvier au cinéma.
Donc, la publicité Direct Assurance nous montre un client qui fait un bisou sur la joue de son conseiller, le prend dans ses bras et... Non, ça va trop loin, ça. En fait, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce qu'on a à dire, c'est qu'en venant chez Direct Assurance, nos clients auto-économisent en moyenne 235 euros, sans compromis sur leur garantie. Et voilà, simple. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle « Ta-ta-ta-da-da ». Direct Assurance est intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS.